Gloire à Dieu, combien je suis heureux que tu termines sur ce cantique, parce qu'effectivement, nous avons chanté plusieurs cantiques qui manifestaient tous la gloire de Dieu. Et Dieu est assez puissant, Dieu est assez grand pour manifester sa gloire dans l'univers. Il n'a pas besoin de nous, mais il voudrait révéler sa gloire au milieu de son peuple. Il voudrait révéler sa puissance, régner dans nos vies, dans l'Église, au milieu de nous et en chacun de nous. Dans nos foyers, dans notre vie quotidienne, le Seigneur voudrait régner. Et je crois, comme le disait effectivement Lucas, c'est avec beaucoup d'amour que le Saint-Esprit veut nous parler pour comprendre la pensée de Dieu. Et il vient... Et je vous pose une question, peut-être pour les anciens, ils pourraient répondre, ou les frères et sœurs engagés depuis des années, savoir que pouvons-nous faire sans le Saint-Esprit ? Rien du tout. Et quelle est la première chose que le Saint-Esprit a fait quand il est venu nous parler ? Il nous a convaincus de péché, il nous a rappelé la croix, le sang qui a coulé. Et pour que la gloire de Dieu revienne réellement comme le Seigneur voudrait, le Saint-Esprit veut aussi prendre toute sa place. Et il nous ramène aux bases, il nous ramène à la croix, afin que nous puissions non pas seulement chanter « À l'agneau de Dieu soit la gloire », mais le vivre. Et c'est pour notre bénédiction, c'est pour notre épanouissement, mais c'est surtout pour son règne, pour le salut du plus grand nombre. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, s'il vous plaît, dans le livre que vous préférez et que vous lisez le plus souvent dans les Saintes Écritures. Jérémie a de suite trouvé, vous avez compris que je parle du Lévitique. C'est donc bien votre livre préféré. Lévitique, chapitre 1er, verset 1er. Le Lévitique, je pense que l'explication que l'on peut donner du fait que ce soit votre livre préféré, c'est que ce livre est assez compliqué dans le sens où toutes les explications qui nous sont données sont faites par analogie, par symbole ou par signe prophétique. Lorsque l'on prend le livre des Lévitiques et qu'on le lit comme ça, d'un trait, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, on a l'impression que Dieu se répète, mais Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. On a l'impression qu'il y a une série de rites, de religions, de traditions qui s'établissent les unes après les autres, mais Dieu ne nous parle jamais pour nous faire entrer dans des rites. Alors nous allons essayer, eh bien, de laisser le Saint-Esprit interpeller nos cœurs pour que la gloire de Jésus revienne dans nos vies. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail, et si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. » Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur, Aaron, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et nous disons Amen. Le livre du Lévitique vient du mot dérivé Lévi, qui signifie « et il appela ». Et Dieu veut nous dire ce soir qu'il nous appelle tous. Vous me direz, oui, mais Dieu a appelé Moïse de la tente d'assignation pour lui parler. Sauf que Dieu a dit à Moïse, parle-leur. Parle-leur à tous, parle au peuple, afin que tout Israël élite qui vient offrir, doit offrir de cette manière-là. Donc cette parole était adressée à tous. Et ce soir, le Seigneur voudrait nous interpeller tous, les uns et les autres. L'Éternel appela Moïse et là, il lui parle de trois sacrifices, trois manières d'apporter un holocauste à l'Éternel. Bien sûr, il y a tout un tas de détails dans lesquels nous ne pourrons pas rentrer, mais nous allons essayer surtout de comprendre et de garder la pensée de Dieu. Ce que nous avons lu, je ne sais pas si vous avez discerné, mais deux types d'holocaustes différents. Vous avez vu que le premier, il nous est dit, celui qui offrira du gros bétail. Et ensuite, il est dit, si quelqu'un offre du menu bétail. Donc il y a déjà là une différence dans les sacrifices. Très rapidement, je voudrais parler du premier sacrifice. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice, déjà, c'est un holocauste. Il nous est dit à la fin qu'il est d'agréable odeur à l'Éternel. L'holocauste, c'était ce qui symbolisait le tout abandonné à Dieu. L'holocauste, dans l'holocauste, on consomme tout. On met le feu, on brûle tout. Et vous voyez, si vous lisez tout le Lévitique, et je vous encourage à le faire, vous verrez qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits où parfois, eh bien, il y a une part qui est gardée pour le sacrificateur et ses fils. Mais dans l'Holocauste, tout est pour Dieu. Dans l'Holocauste, tout est pour Dieu. Et le premier sacrifice qui est parlé, dont il est parlé, c'est l'Holocauste de gros bétail. Il est un type de Christ qui s'offre à Dieu. L'Holocauste, c'est cette victime qui était égorgée. Dieu avait dit, voilà, vous voulez entrer dans ma présence, il y a la tente d'assignation, à l'entrée de la tente d'assignation, il faudra égorger le gros bétail. Et il faudra tout consumer, c'est un holocauste. C'est un type de Christ qui s'offre dans sa mort, c'est-à-dire c'est le sacrifice parfait. Jésus a tout donné, premièrement, l'holocauste, tout est consumé. Jésus a tout donné et il nous encourage à le suivre. Chrétien vient du mot Christ, petit Christ, nous suivons Christ et nous sommes amenés à tout donner, comme Christ a tout donné. Et nous, tout donner, ce n'est pas mourir sur la croix, c'est Jésus qui l'a fait, mais tout donner, c'est abandonner nos vies concrètement et réellement entre les mains du Maître. Jésus a tout donné, l'Holocauste. Et il nous est dit, cette offrande, ce sacrifice, il est fait à l'Éternel. Et j'aimerais dire que la première raison pour laquelle Jésus s'est donné, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Jésus s'est d'abord donné pour Dieu et il s'est donné à Dieu. Quand nous servons le Seigneur, même pour aider, admettons, un pauvre, je prends un exemple concret, je voudrais aider un pauvre et par exemple au travers de la banque alimentaire, lui apporter de la nourriture et en même temps lui donner un évangile, témoigner. Si je ne le fais pas pour Dieu, mon sacrifice n'est pas d'une agréable odeur à l'Éternel. Les païens n'en font-ils pas de même, nous dit la parole ? C'est-à-dire, on le fait pour lui, mais avant de le faire pour lui, on le fait pour Dieu. Quand Jésus s'est offert, il s'est offert à Dieu, et bien sûr, ensuite c'était pour nous purifier. Mais c'était d'abord un sacrifice à Dieu. C'était le gros bétail, ce qui nous parle de quelque chose de précieux, d'important. Quand Jésus est venu, il nous faut tous comprendre que c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie sur le bois de la croix afin que nous soyons sauvés. Ce n'est pas n'importe qui. Ce qui est choisi, c'est du bétail. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la fleur de farine. Vous savez que dans d'autres sacrifices, il y a de la fleur de farine, il y a des parfums, de l'encens. Mais le bétail nous parle de la vie. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ a offert sa vie. Il n'a pas offert du matériel, il n'a pas offert quelque chose qui n'avait pas de valeur. Il a offert sa vie. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas en premier de lui apporter des choses, du matériel, des actions, des œuvres, c'est de lui donner notre vie. Mon ami, lui as-tu donné ta vie? Mon frère, ma sœur, d'accord, tu es chrétien, mais lui as-tu donné ta vie? Je continue rapidement. Il nous est dit que dans ce sacrifice, le choix qui était fait dans le sacrifice parfait, celui qui représente Christ, c'était un mâle. Vous allez me dire, c'est normal? Eh bien non, dans d'autres sacrifices agréés par Dieu, il nous est dit un mâle ou une femelle. Mais dans le sacrifice qui typifie Christ, c'est un mâle. Parce que le sacrifice de la croix, c'est l'évangile de la vérité. Et l'évangile, c'est un évangile viril. Je n'ai pas dit macho, je n'ai pas dit où les hommes se sentent supérieurs, mais j'ai dit viril. L'évangile, ce n'est pas un évangile sentimental. Mais Christ, qui a revêtu la chair et le sang, a été appelé l'homme de douleur. Et vous verrez que dans toutes les religions humaines et les philosophies, en abomination à Dieu, il y a des déesses. Et l'homme a essayé d'efféminer le christianisme en y apportant la mariologie et le culte à Marie. En y introduisant le culte à Marie. Or, nous lisons dans Jean chapitre 2 le premier miracle de Jésus-Christ que elle-même de sa propre bouche se tourne vers ses serviteurs pour leur dire « Faites ce qu'il vous dira ». Si aujourd'hui Marie pouvait parler, elle dirait à tous les êtres humains qui l'adorent ou qui l'a pris « Arrêtez, je ne peux rien faire, mais faites ce qu'il vous dira ». Qui ? Jésus. Lisez sa parole et marchez dans la vérité. Oui, la virilité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un évangile puissant. L'évangile, c'est une communion spirituelle avec Dieu, pas une communion sentimentale. Quand notre vie, elle est basée uniquement sur le sentimentalisme, ça ne tient pas et on abandonne sur le chemin. L'amour de Dieu, c'est pas un amour humain, ce n'est pas un amour sentimental, ce n'est pas un amour à l'eau de rose. C'est la bienveillance du Père qui donne son Fils afin que nous soyons sauvés. Un amour avec un grand A, un amour spirituel, éternel. Ce mal qui devait être offert était sans défaut. Parce que quand Christ est venu, il a lutté contre le péché. La parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Mais toujours pur, innocent. Et il est allé à la croix en crucifiant le péché, il a vaincu le pouvoir du péché. Je disais dernièrement que Paul nous dit aux Corinthiens dans ce verset extraordinaire qu'il a été fait péché pour nous. Jésus n'a pas péché, il a été fait péché. Jésus n'a pas été pécheur, il a été fait péché. C'est-à-dire qu'en revêtant votre péché, mon péché, celui de l'humanité entière depuis la création de l'humanité, Jésus a revêtu le péché, et en se laissant crucifier à la croix, le diable riait, mais c'est le péché qui est crucifié, puisque Jésus a été fait péché. Et c'est la plus grande défaite du mal, c'est la plus grande victoire de Dieu, car nous, qui étions morts, nous pouvons être ramenés à la vie en Jésus-Christ. Enfin, je termine sur ce sacrifice, c'était un sacrifice d'agréable odeur, et il était fait volontairement. Vous avez vu ce qui est dit ? Une offrande, c'est-à-dire un sacrifice qui vient du cœur. Lorsque quelqu'un fera une offrande, ça vient d'une offrande volontaire. Ce que Dieu agrée, c'est quand ça vient du cœur, pas des rituels. quand ça vient du plus profond de notre être intérieur, de notre esprit, la volonté de lui donner notre vie. Et ça nous rappelle que Christ, le parfait, le Seigneur, le Christ lui-même est venu. Et quand bien même des hommes ont dit « Mais moi j'ai le pouvoir sur toi », Jésus a répondu « Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui l'offre. » Jésus s'est offert, gloire à son nom. Nous passons au deuxième sacrifice. Comment faire revenir la gloire de Dieu au milieu de nous? Il faut que chacun d'entre nous, croyants, chrétiens, fidèles en Jésus-Christ, nous soyons réellement baptisés dans le Christ et que nous vivions dans sa résurrection. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Aujourd'hui, peut-être beaucoup de chrétiens ont les mêmes combats. Je suis chrétien et pourtant j'ai les mêmes combats. J'ai les mêmes péchés, j'ai les mêmes dépendances, j'ai les mêmes luttes, j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes soucis. Pourquoi? Et nous allons le voir là. Dans les sacrifices du Lévitique, voilà, il y a ce premier sacrifice qui typifie Christ qui est montré. Et ensuite, il y a un second sacrifice de menu bétail. Certes, je suis d'accord, il y a là aussi une notion qui nous parle de Christ. Mais le fait de parler du menu bétail et ensuite un troisième sacrifice que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas le temps de voir ce soir, qui parle d'un oiseau, le fait que le sacrifice soit de plus en plus pauvre, certes, il parle d'une personne qui était plus pauvre et donc matériellement qui ne pouvait apporter qu'un animal qui valait moins cher, mais ça nous parle aussi de notre appréciation du sacrifice de Christ qui spirituellement est plus pauvre. Et voilà pourquoi la gloire de Dieu n'est pas dans ma vie et pourquoi je n'arrive pas à me détacher. Et le Saint-Esprit, avec son amour, voudrait nous interpeller ce soir et nous dire, mais reviens à la richesse de ce qu'est réellement le sacrifice du Christ. Et on va voir plus facilement la beauté, la grandeur, l'immensité du sacrifice de Jésus-Christ au travers des sacrifices qui sont plus pauvres, parce qu'il manque à chaque fois quelque chose. Nous allons lu dans le deuxième sacrifice, sacrifice donc de menu bétail, qu'il était plus pauvre. Mais si on fait un petit peu plus attention au verset 3, voyez, verset 3, il est dit que dans le sacrifice de gros bétail, sans défaut, il est offert à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 10, si je compare avec l'autre, si un offrande une holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut, point. Il n'y a plus la notion d'entrer dans la tente d'assignation. Et il y a une manière plus pauvre spirituellement d'appréhender le sacrifice de Christ, c'est celle qui nous amène à nous présenter devant Dieu sans passer par l'entrée dans la tente d'assignation. Dans l'entrée de la tente d'assignation, il y avait quoi? Il y avait tout simplement la victime qui était égorgée et sacrifiée. Et quand on ne prend plus conscience que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut passer par le sacrifice, on s'est totalement et infiniment appauvri spirituellement. Je vais m'adresser quelques secondes aux inconvertis. Vous n'êtes pas engagé avec Jésus-Christ, vous entendez, vous avez une certaine connaissance, j'aimerais vous encourager, avec tout l'amour de Christ, à réaliser que vous pouvez dire, je crois en Dieu, j'ai une croyance, je crois qu'il y a quelque chose de supérieur, je crois en une destinée, je crois en une force supérieure. Si vous ne passez pas par l'entrée de la tente d'assignation, vous n'aurez jamais la connaissance du Père. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte des brebis. Pour accéder à la communion du Père, il faut passer par l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire à l'entrée, il y avait le sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous donne entrée dans la communion du Père. C'est le sang de Jésus qui a coulé, qui nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous lave. C'est lui qui nous pardonne par son sacrifice merveilleux. Mon ami, passe par la croix. Reviens à la croix. Le Saint-Esprit voudrait se saisir de nous. Mais la première chose qui est faite, c'est qu'il nous reparle de la croix. Et frères et sœurs, maintenant je m'adresse à nous. Peut-être avons-nous, et nous nous sommes appauvris spirituellement, parce que nous avons oublié qu'à chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, c'est par le sang de Christ que nous pouvons le faire. Et quand nous oublions ces réalités, nous nous appauvrissons, merci beaucoup, terriblement. Être riche spirituellement, c'est déjà réaliser la croix, encore à nouveau. Réaliser ce que Jésus a fait et réaliser que c'est ce qui nous permet d'aller dans la communion du Père. Pourquoi avait-il choisi l'endroit de l'entrée de la tente d'assignation pour qu'il y ait la victime qui soit sacrifiée ? Parce que Christ veut nous montrer que l'important, ce n'est pas de rester à l'entrée. Nous avons des chants, nous aimons dire « J'entre dans tes parvis et je dis gloire à Dieu ». Mais je dis qu'il faut aller beaucoup plus loin que les parvis. Il faut aller dans la présence, il faut aller dans le Saint des Saints, il faut aller dans l'intimité avec Dieu, dans le secret de la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Dieu qui te voit là, dans le secret, il t'entend, il te voit, et puis aussi il t'entend, et il répondra. Dans le secret de la prière, dans le secret de l'intimité, dans une vie, une communion réelle au quotidien avec lui. L'entrée dans la tente, le sacrifice était à l'entrée, pour nous montrer qu'il ne faut pas s'arrêter à la croix. C'est merveilleux la croix, il faut passer par la croix. Mais une fois que j'ai contemplé la croix, il faut que j'aille plus loin et que j'aille dans sa communion. Pourquoi le sacrifice était à l'entrée ? Pour nous faire jouir, nous réjouir et nous donner de l'allégresse d'être dans la présence du Père. Seul le sacrifice nous permet d'entrer dans la communion du Père. Pour être proche de lui, il faut passer par l'entrée. Et le Seigneur nous donne beaucoup d'images. Il parle de la poule avec ses poussins. Vous vous rappelez ? Il parle des Israélites. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins ? Et une des particularités des poussins, c'est quoi ? Ils sont toujours tout proches de la poule. Quand vous voyez des poussins, la poule, elle est à côté. N'est-ce pas ? Jean-Baptiste, le disciple que Jésus aimait, où était-il ? Couché sur son sein, proche du cœur du maître. Jésus a envoyé ses disciples, avant de les envoyer, au tout début, quand il appelle, pendant la pêche miraculeuse, il dit à Simon, « Ne crains point, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Oui, mais avant de leur dire, « Vous serez pêcheurs d'hommes, vous serez évangélistes, vous serez témoins », il leur dit quoi ? « Suivez-moi. Suivez-moi et vous serez pêcheur d'homme, il fallait être proche du maître. Jean 17, 20, Jésus qui parle de sa communion avec le Père, proximité, proche, intimité, relation véritable avec le maître. Il dit, mais je prie pour tous ceux qui croiront en toi, pour tous ceux qui croiront par leur parole, afin que comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, afin qu'eux aussi, ils soient un, en nous, quelle communion, quelle image extraordinaire. L'entrée dans la tente d'assignation. Deuxièmement, dans le deuxième sacrifice, il n'est plus parlé d'obtenir sa faveur. Et il y a une manière beaucoup plus pauvre d'appréhender le sacrifice de Christ sur la croix, c'est d'oublier la faveur, d'oublier la puissance de la grâce, d'oublier que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Rappelez-vous que dans le Nouveau Testament, il nous est dit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Donc si on passe par la croix, c'est pour obtenir sa grâce. Quand on oublie la grâce, eh bien on devient spirituellement infiniment plus pauvre et on ne s'en rend pas forcément compte. On oublie qu'on était comme ceux qui aujourd'hui sont perdus. On oublie qu'on était comme ceux qui aujourd'hui sont loin de Jésus, et on se met peut-être à avoir même des paroles malheureuses envers eux. Mais quand on se rappelle que tout est par grâce, et que si sa grâce n'était pas venue pour nous, nous serions comme eux, nous serions en enfer, alors on met un frein à nos lèvres, et on fait comme l'homme qui était là, qui n'était pas debout à se montrer en priant, mais qui se frappait la poitrine, et qui considérait ses voies humiliées devant le maître par sa propre volonté, dans un état d'esprit d'humilité. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce, c'est ce qui doit amener quelqu'un ce soir à dire « Ne reste pas loin de Dieu, Jésus t'attend » avec des bras d'amour extraordinaires. Si on méprise la grâce, c'est comme si le sacrifice de Christ et tout ce que Christ a souffert, pour nous, ce n'est pour rien. Ça n'a pas de valeur. Oh, considère l'amour de Jésus-Christ. Et si on n'a pas de communion avec Dieu, peut-être qu'un chrétien dit, mais c'est vrai, moi, le seul moment où je pense à Dieu, c'est quand je suis à l'église. Bien, mon frère, peut-être, ma sœur, tu ne te rends pas compte, mais tu méprises la croix. Parce que si tu savais tout ce que Jésus-Christ a souffert, enduré pour que tu aies une communion avec le Père, alors tu reviendrais à l'entrée de la tente d'assignation, dans le secret de ta chambre. Troisième élément qui n'y est pas, voyez, quand on lit, on a l'impression que ça se répète et il y a beaucoup de points qui ne sont pas là. Et l'omission voulue par le Saint-Esprit est nécessaire pour notre enseignement. Le troisième point, c'est qu'il était dit au verset 4 dans le sacrifice parfait qui typifie Christ, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Alors que, et qui sera d'ailleurs agréé de l'Éternel, c'est quelque chose d'agréable à l'Éternel pour servir d'expiation. Et dans le sacrifice de menu bétail, il n'est pas question de cela. Ce qui veut dire que celui qui égorgeait le menu bétail, il ne posait pas sa main sur la tête de la victime. J'ai besoin d'aide, hein. Vous voyez, je fais aussi des erreurs, beaucoup. Merci pour votre indulgence. Il pose sa main sur la tête de la victime. Poser sa main sur la tête de la victime, ça nous parle de l'identification avec Christ. Je vous explique, je vais essayer de vous expliquer simplement. Pas toujours évident d'expliquer le Lévitique simplement. Quand l'homme prenait la victime, il posait sa main sur la tête. La victime était-elle innocente ? Rassurez-moi. Oui, ouf. Elle était innocente. Il prend un animal. La victime est innocente. Mais lui, il porte le péché. Il vient pour offrir son sacrifice. En posant sa main sur la tête de la victime, il s'identifie à la victime. Son péché est symboliquement transféré sur la victime qui, elle, est innocente. Et la victime innocente transfère son innocence sur lui qui était pécheur. La victime est sacrifiée, elle est morte. Et lui, il devient innocent. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris notre péché et il nous a revêtus de son innocence. Il a purifié nos cœurs, il nous a lavés, il nous a justifiés, il nous a donné une robe nouvelle. Non pas que nous sommes purs et saints dans, au sens absolu du terme, mais nous sommes purifiés par le sang de Christ. C'est comme ça que Jean a pu dire, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, si quand j'ai péché, je demande pardon, je marche dans la lumière, donc le sang précieux de Jésus me purifie de tout péché. Mais si je ne demande pas pardon, je me charge d'une faute. Mais si je me repens, je suis pardonné. Parce que Christ a souffert à la croix. Ainsi, il y avait une identification. Et c'est là ce qui se passe comme drame pour certains chrétiens qui souffrent, qui restent attachés à leur penchant, toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Ils ont compris la croix, parce que vous allez me dire, dans le sacrifice de menu bétail, il y a le sang, on égorge la victime. Oui, à l'entrée de la tente d'assignation, il n'a pas la conscience, mais il y a la victime, il y a le sang. Et les chrétiens, tous les chrétiens, vraiment, dans le sens profond du terme, ont conscience du sang, conscience de la croix, ont même peut-être une révélation exacte du pardon des péchés, mais ils n'arrivent pas à s'identifier avec Christ dans sa mort. Or, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et quand il parle du baptême, Romains chapitre 6, on va le lire parce que vous allez voir, peut-être on passe des fois sur des passages sans réaliser ce que ça signifie. Romains chapitre 6, verset Romains chapitre 6, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Et on pourrait même continuer tellement ce passage est merveilleux. De quel baptême nous est-il parlé ? Le baptême dans le Christ. Et quand on n'a pas été baptisé dans le Christ, on ne s'est pas identifié à la mort de Jésus. Être baptisé dans le Christ, c'est s'identifier à Christ. S'identifier d'abord à Christ dans sa mort. Et quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Le vieux Nathanaël est mort, j'espère. Et je travaille à ça. L'orgueilleux, le râleur, le colérique, l'impulsif, le monsieur je sais tout, le monsieur j'ai toujours raison, le jaloux, l'envieux, il a été crucifié avec Christ. Et c'est un nouvel homme qui revient. J'ai été baptisé en sa mort et je suis baptisé en Christ par sa résurrection. C'est la régénération. La puissance du Saint-Esprit qui nous amène à réaliser ces choses. Et quand on n'a pas compris qu'on a été crucifié avec Christ et qu'on n'arrive pas à s'identifier à Christ dans sa mort, on reste attaché à ses anciens péchés. Et le baptême d'eau, il n'est que le symbole de ce baptême en Christ intérieur que j'ai vécu. Il est l'expérience extérieure de ce baptême, il est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et devant les hommes. En plus, un témoignage. Cet engagement, je le prends parce que j'ai été d'abord baptisé en Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Je prends une image. Cet objet-là que vous voyez et que vous connaissez tous s'appelle une alliance. Le 4 septembre 2004, Marilyn Serré a mis cette alliance à mon doigt. J'ai mis une alliance à son doigt. Elle est devenue Marilyn Koudougou et nous sommes devenus époux, homme et femme, mari et épouse, devant Dieu, devant les hommes et selon la loi. Lorsque nous avons mis cette alliance, nous n'avons pas commencé, en ce jour précis, en cette date, à nous aimer. Mais cette alliance était un engagement l'un envers l'autre, qui était le fruit d'un amour profond existant bien avant. Lorsque nous nous sommes fait baptiser d'eau, c'était un engagement profond et vrai, mais qui symbolisait un amour et une relation avec Dieu que nous avions bien avant. Et le risque, ce serait de passer par les eaux du baptême, sans, le baptême d'eau, avant le baptême dans le Christ. Et le Saint-Esprit voudrait nous parler. Il voudrait nous amener à comprendre que quand nous avons été baptisés dans le Christ, le Seigneur nous a rappelé que nous avons été arrachés à notre vieille nature. Il nous a montré la croix, nous avons pleuré, nous nous sommes repentis. Nous avons demandé pardon, nous avons été purifiés, pardonnés, sauvés, rachetés, relevés, et la parole de Dieu dit transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible ne dit pas il vous transportera. La Bible dit « Il vous a transporté ». Pourquoi on parle toujours au futur ? Dieu te transporte. Et quand j'ai été baptisé dans le Christ, je suis déjà entré dans le royaume de Dieu. Comme Jésus a dit, le royaume de Dieu, il est venu parmi vous. Et quand j'ai été baptisé dans le Christ, je suis immergé. Baptizo en grec veut dire immergé, immersion, baptisé dans le Christ. Oui, le Saint-Esprit voudrait venir comme un vent puissant dans nos cœurs pour à nouveau nous baptiser dans le Christ, pour à nouveau ramener quelqu'un, peut-être à détacher ses liens et à vivre en nouveauté de vie, que la gloire de Dieu revienne, que nos yeux soient à nouveau fixés sur ce qu'est la puissance, la profondeur de la croix, de ce que Jésus a accompli, et de ne pas oublier cette identification, mais de nous rappeler que nous sommes morts avec Christ, baptisés, immergés, plongés. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, soyez comme des enfants, comme des enfants. Il prend un enfant dans ses bras. Si vous n'êtes pas comme lui, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme ces enfants, une foi sincère ce soir pour dire oui j'ai des liens, oui j'ai des problèmes, oui j'ai des soucis, oui j'ai des blocages, mais ce soir je prends une victoire par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Dieu est puissant et j'arrête avec mes raisonnements d'adulte compliqués, je viens comme un enfant vers son Père. Un enfant est une éponge, lui peut être immergé. Une éponge, vous avez déjà plongé une éponge? Elle est rabougrie et quand elle est plongée dans l'eau, elle est imbibée. Elle a pris de la consistance, elle a pris du volume. Et nous avons besoin spirituellement de prendre du volume, de prendre de la consistance. Quand elle est plongée dans l'eau, on la ressort, elle est pleine de quoi? Il n'y a pas de piège. Plein d'eau. Si je la presse, qu'est-ce qui sort? De l'eau. La parole de Dieu nous dit, le diable vient pour nous cribler comme le froment. Dieu le laisse faire, parce qu'il n'en sort que le meilleur. Quand l'éponge est pressée, il sort de l'eau. Quand un chrétien baptisé dans le Christ, régénéré, et vivant sous la puissance, sous l'action du Saint-Esprit, est criblé par l'épreuve, il sort quoi? Il sort du Christ. Il sort de Jésus. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, qu'il est pressé, il sort le fruit de l'Esprit. Comme quand on presse une éponge, il sort de l'eau. Vous allez me dire, mais où vous avez vu ça, monsieur? Pour ceux qui ne me connaissent pas, sûr. Eh bien, je vous répondrai que la Bible nous le montre. Paul et Silas, ils ont été battus. Pourquoi ont-ils été battus injustement? Parce qu'en plus, ils avaient délivré une femme. Et ils ont été battus de verges, jetés en prison, torturés, ils avaient des blessures, la Bible nous dit. Et qu'est-ce qu'il nous est dit alors qu'ils sont éprouvés, criblés comme le froment? Que font-ils? Ils chantent. Et que se passe-t-il? Les fondements de la prison sont ébranlés, les chaînes sont brisées, les ceps tombent, ils sont libres. Et que font-ils? Ils partent vite en courant. Non, ce geôlier-là, que font-ils? Ils vont l'évangéliser, il va se convertir. On parle souvent de cette partie, mais moi je me suis posé la question, qui était ce geôlier? Ce geôlier était même cet homme qui venait de les torturer. Comment donc vont-ils avec amour lui annoncer l'évangile et lui dire surtout ne te tue pas? Ils l'ont empêché de se suicider. Ça c'était le fruit de l'esprit, la bonté. La bienveillance, l'amour, que dire de Pierre qui est au milieu de la prison? Pareil, l'ange vient, il le réveille avec un coup à la hanche, viens, lève-toi, et tout à coup les chaînes tombent. Oui, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que son vieil homme a été crucifié avec Christ. Et si on va plus loin dans les sacrifices des Lévitiques, on voit qu'il y a un sacrifice encore plus pauvre. C'est celui de l'oiseau. Et il faut tout déplumer. Il faut enlever les plumes. Paul, il a su enlever les plumes. Il a dit, tout ce que j'ai de moi, je le considère comme une perte. Mes gains, mes honneurs, je les considère comme de la boue. Il a tout mis de côté. Et il a prêché l'évangile de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La même puissance que Dieu a déployée par le Saint-Esprit pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qu'il veut manifester dans nos vies pour nous amener à vivre en nouveauté de vie. Je conclus en nous rappelant les uns les autres qu'il y a un appel. Peut-être que quelqu'un s'est appauvri spirituellement. Il y a une manière très, beaucoup plus pauvre d'appréhender le sacrifice de la croix quand on oublie l'entrée dans la tente de l'assignation, quand on oublie la puissance de la grâce, quand on oublie l'identification à Jésus-Christ dans sa mort. Et le Saint-Esprit vient dans nos cœurs ce soir. La parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il est venu comme un vent impétueux qui faisait du bruit, un bruit comme un vent impétueux. Et Jean, chapitre 3, verset 8, nous dit, oui, que le vent, quand le vent vient, il souffle, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de quelqu'un qui est rempli et qui est conduit par l'Esprit. Or, dans le grec, le mot « vent » est le même mot que le mot « esprit ». Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec une puissance telle qu'il a touché le cœur de ces gens. Un vent impétueux, quelle puissance, qui a ramené la liberté. Un homme rempli de l'Esprit-Saint, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Comme le vent, vous savez d'où il vient, où il va ? On ne peut pas le contrôler. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est mort avec Christ, il est ressuscité avec Christ. Même les plus grands persécuteurs de la terre ne peuvent pas l'arrêter, ne peuvent pas l'empêcher de louer son Dieu, ne peuvent pas l'empêcher de témoigner. Parce qu'il peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pouvons-nous nous recueillir, s'il vous plaît, quelques instants, et prier, puisqu'il nous reste quelques minutes, avec tous ceux qui le désirent, peuvent élever leur voix très très courtement, s'il vous plaît. Je le répète, très très courtement. Le but, c'est vraiment la prière du cœur. Père, oui, c'est la prière du cœur que nous voulons faire ce soir. Merci pour le sacrifice de la croix. Par le Saint-Esprit, viens nous bousculer, nous bouleverser et réouvrir nos yeux sur ces réalités extraordinaires. Parce que nous nous sommes peut-être appauvris, mais tu nous enrichis par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.